il y a une vie de bénédiction et de repos, la bénédiction du repos qui nous attend en Jésus-Christ. Ça, c'est la promesse. Mais malheureusement, souvent, nous ne rentrons pas, nous ne prendrons pas possession de cette vie. Et les mauvaises habitudes, les mauvaises pensées, les mauvaises choses dans nos vies qui nous gênent. De prendre en possession cette vie que Dieu nous donne, que Dieu nous promet en Jésus-Christ. J'ai commencé une série de messages sur le livre de Josué. Et notre objectif est d'apprendre de l'exemple d'Israël, de Josué. Eux, ils ont fait la conquête de Canaan pour prendre en possession la vie promise, la terre promise. Et c'était pour eux un endroit, effectivement, de repos et de bénédiction. Donc, nous pouvons apprendre de leur exemple de nos jours, comment prendre en possession cette vie promise en Jésus-Christ. Donc, je continue aujourd'hui. Nous allons regarder ce verset. Si vous avez vos Bibles, nous sommes en Josué, chapitre 1. Il y a certains versets, peut-être, que je n'affiche pas. Donc, ça serait bien d'avoir vos Bibles à côté. Si vous n'avez pas une Bible, il y a sur la table derrière des Bibles que vous pouvez utiliser. Josué chapitre 1, versets 10 à 18. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous ordonnerez au peuple. Préparez vos provisions, car dans 3 jours vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Rubenites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté du Jourdain. Mais vous tous, les hommes vaillants, vous passerez en ordre de bataille devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, qui soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Alors vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a donné de ce côté-ci du Jourdain, à l'est. Ils répondirent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel, ton Dieu, veuille seulement être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre, qui n'obéira pas à tout ce que tu lui ordonneras, sera puni de mort. Seulement fortifie-toi et prends courage. » Ce passage nous enseigne un principe très important. Nous avons besoin les uns des autres dans la communauté de foi si nous voulons prendre possession de la vie promise. Dieu se sert de son peuple pour accomplir son plan. Et ce principe sera illustré maintes fois dans l'histoire de la conquête rencontrée au livre de Josué. Si nous manquons ce principe, nous manquerons l'une des leçons les plus importantes que Josué nous apporte. Alors, voici le principe pour aujourd'hui. Soyez attachés au peuple de Dieu. Nous avons besoin les uns des autres dans la communauté de la foi si nous voulons prendre possession de la vie promise. Dieu se sert de son peuple pour accomplir ses plans. Sois attaché au peuple de Dieu. Prions. Seigneur, sois avec nous dans ce message. Enseigne-nous, encourage-nous dans la foi, transforme-nous par la présence de ton Saint-Esprit. par la vérité de ta parole. Amen. Permettez-moi, pour commencer, d'abord d'expliquer le contexte historique de ce passage. Nous avons certaines dans notre assemblée qui étaient en Christ depuis des années. Vous avez étudié la Bible, vous connaissez peut-être ces choses, mais nous avons aussi d'autres qui sont nouveaux dans la foi. Donc, j'ai pensé que c'est important quand même d'enseigner quelque chose. Pour commencer, nous devons comprendre qu'Israël était organisé, dans l'Ancien Testament, organisé en 12 tribus. Ces tribus étaient issues des 12 fils de Jacob. Mais ce n'est pas si facile que ça. Ici, nous voyons les fils de Jacob. Jacob, lui, il avait... Ce n'est pas ce que le Nouveau Testament nous enseigne, mais nous sommes dans une autre époque et les choses s'apprennent. Donc, mais Jacob, il a comme femme Léa et Rachel. Léa, elle avait comme servante Zilpa et Rachel Bilha. Donc, Jacob, il avait six fils de Léa. Ruben, Issachar, Zébulon, Simeon, Lévi et Judas. Et à un certain moment, Léa ne pouvait plus avoir les enfants, donc elle a donné Zilpa. je ne sais pas comment ça marche, mais de toute façon, elle avait Gad et Aser par Jacob. Et Bilha aussi, Rachel ne pouvait pas avoir les enfants, donc elle a donné son servante aussi à Jacob. Jacob et Bilha, il y avait Dan et Naphtali. Et Dieu a béni Rachel pour avoir aussi des enfants, deux fils, donc Joseph et Benjamin. Donc voici sont les tribus. Mais il faut savoir que Lévi, le fils Lévi, il n'y avait pas une tribu qui est comptée pour Lévi. Lévi était comme une tribu à part pour servir Dieu dans le temple, servir les autres dans le temple. Donc, il n'était pas compté parmi les douze. Par contre, Joseph, au lieu d'avoir une tribu de Joseph, il y avait deux tribus qui étaient les fils de Joseph, Manassé et Ephraïm. Donc, voilà, nous avons alors les 12 tribus, Ruben, Issachar, Zébulon, Simeon, Judas, Gad, Aser, Dan, Naphtali, Manassé, Ephraïm et Benjamin, qui sont les 12 tribus d'Israël. Bon, vous voyez ici quelques petites informations. Moïse et Aaron, ils étaient de tribu à part, Lévi, David, Salomon, j'ai mal écrit, désolé, ça doit être un nom. David, Salomon et Jésus-Christ étaient issus de la tribu Judas. Josué, le personnage principal dans notre étude, il était de Ephraïm et Saül, le premier roi d'Israël, il était de Benjamin. Voilà. Donc, mais pour arriver à la frontière de Canaan, les Israélites devaient se mettre en guerre contre les Amoréens qui occupaient la territoire à l'est du Jourdain. Cette partie ici. Donc, ils ont erré dans le désert ici. Et toutes les 12 tribus sont arrivées ici, l'est du Jourdain, avant d'entrer dans le pays de Canaan, qui était la terre promise. Donc, ils étaient là, ils ont battu les Amoréens. Et à un certain moment, après cette conquête, les tribus de Ruben, Gad et les demi-tribus, la moitié des tribus de Manassé, ont trouvé que le territoire ici était bon. Donc, ils ont demandé à Moïse le droit de s'y installer. Moïse a accepté à la condition qu'ils aident les autres tribus d'Israël à entrer en Canaan et le prendre en possession. L'histoire que nous lisons dans le chapitre 1, dans notre texte ce matin, raconte le moment où ces trois tribus, Ruben, Gad et Ephraïm, Manassé, devaient honorer leur engagement. Et vous pouvez voir cette histoire encore en Nombre chapitre 32 et aussi en Deutéronome chapitre 3. Bon, je reviens à notre texte de ce matin. Nous voyons dans cette histoire que la conquête de Canaan exigeait la collaboration de toutes les tribus d'Israël. Remarquez au verset 14 ici et 15. Quand il dit aux tribus de Ruben, Gad et Manassé, il dit, au début de « Vos femmes, vos petits-enfants, vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné à Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, les hommes vaillants, vous passerez en ordre de bataille devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos. » Donc, c'était une mission que les Israélites devaient aborder ensemble. Tous les 12 tribus, pas seulement 7 tribus et demie, mais tous les 12 tribus devaient l'aborder ensemble. Ce n'était pas une affaire de chacun pour soi, la conquête. Les Israélites devaient être solidaires dans cette mission. La question qui me pose... quand j'ai étudié ce passage, et pourquoi Dieu demande-t-il de quitter leur famille pour aller en Canaan et aider les autres? Pourquoi c'était nécessaire pour ces deux tribus, les trois tribus, Manassé, Ruben et Gad? Pourquoi c'était nécessaire pour eux de traverser le Jourdain pour aider les autres? Parce que Dieu a déjà promis de donner la terre aux Israélites. Ici, au verset 11, nous voyons parcourir le camp. Voici ce que je vous honorerai. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Et c'est répété plusieurs fois. Dieu a déjà donné la promesse de donner cette terre. Je me pose la question, Dieu avait-il besoin de leur aide pour réaliser sa promesse? Pas du tout. Ils n'avaient pas besoin, oui, de ces trois tribus pour réaliser sa promesse. Dieu est tout puissant, il pourrait le faire sans l'aide, mais ce n'est pas sa volonté. Dieu, dans sa sagesse infinie, désire se servir de nous, son peuple, pour accomplir ses desseins. Donc, il demande ces trois tribus d'aller avec leurs frères. Regardons de nouveau versets 14 et 15. Nous voyons toujours cette double responsabilité dont j'ai parlé il y a quelques semaines dans le premier message de l'introduction du livre de Josué. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Il y a le rôle de Dieu dans la conquête et il y a aussi le rôle de l'homme. Tous les deux vont ensemble. Notez quand il dit à la fin de verset 14, quand il dit « Les hommes vaillants, vous passerez en ordre bien la bataille devant vos frères et vous les aiderez. » Ça, c'est la part de l'homme. Jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé. C'est la part de Dieu. L'homme a son rôle, Dieu a son rôle. Et il soit aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, le donne. Donc nous voyons toujours les tribus de Ruben, Gad et Manassé devaient aider leur frère. Mais c'est Dieu, fin de jour, qui donne la terre. Dieu ouvre à travers son peuple. C'est ainsi que Dieu l'a ordonné. Les Israélites prendraient possession de la terre par l'aide de leurs frères. Et c'est pareil pour nous. Nous avons besoin les uns des autres dans la communauté de la foi si nous voulons prendre possession de la vie promise en Jésus-Christ. Remarquez dans ce passage que ce qui demande de ces trois tribus, ce n'est pas une suggestion, mais c'est un ordre. Ils devaient aider leurs frères. Au verset 13, nous voyons Josué les rappelle de cet ordre qui a été donné initialement par Moïse en Nombre chapitre 32 et puis encore en Deutéronome chapitre 3 verset 18 à 20. Donc il les rappelle, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel, quand il dit l'Éternel votre Dieu vous accordez du repos. Donc c'était quelque chose ordonné, commandé par Dieu. Ce n'était pas une suggestion, il devait le faire. Nous voyons aussi au verset 16 leur réponse de ces trois tribus. Ils répondirent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Nous irons partout où tu nous enverras. » Donc, nous voyons bien que c'est un commande, un ordre de Dieu pour ces trois tribus. Donc, considérez les implications de cet ordre pour ces trois tribus. Obéir à cet ordre exigeait du sacrifice, de l'amour, de la persévérance, de l'engagement et de la foi. Mettez-vous à leur place. Obéir à cet ordre et demander du sacrifice et de la mort, de l'amour, pardon, et peut-être pour plusieurs la mort, quand ils devaient quitter leur famille pour aller en guerre sans savoir s'ils ne retourneraient jamais. J'espère que je l'ai dit de bon français. Vous me comprenez? Oui? Imaginez, mettez-vous à leur place. Mon fils est né, Lucas, il a quel âge?
Mais il n'a pas encore l'âge pour aller à la guerre.
Bon, mais c'est comme il a un peu plus qu'un an. Mais Dieu dit à mon frère Jean-Yves, il faut aller. Donc, laissez la famille pour aller en guerre. On ne sait pas s'il revient ou non. Ça demande sacrifice de leur part, pour partir. Ils ont déjà ce qui était promis, mais ils devaient partir. Et ce qui est intéressant, et nous le voyons ici au verset 14, et nous le voyons encore au chapitre 3, verset 12, que ces tribus seront les premiers à aller au combat. La position la plus dangereuse dans la guerre, c'était eux qui étaient d'abord au fond, devant tous les autres. Ces hommes étaient prêts d'être séparés de leur famille et même de mourir si c'était nécessaire pour aider leur frère à prendre possession de la terre promise. Jésus nous dit dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. C'est intéressant, je trouve. Comme le sacrifice et l'amour sont souvent ensemble, les deux. Le vrai amour est prêt à se sacrifier pour d'autrui. L'exemple par excellence, c'est ce que Jésus a fait sur la croix de Calvaire. Donc, ces hommes étaient prêts de mettre leur vie, de sacrifier pour leur frère. Et c'était une expression profonde de l'amour. L'amour pour Dieu et pour eux. Ces tribus avaient déjà leur territoire. Ils ne se comportaient pas selon l'attitude individualiste qui caractérise notre époque. Nous vivons dans un monde, dans une culture où chacun pour soi, individualiste. Mais pour eux, ce n'était pas le cas. Ils se voyaient comme solidaires avec toutes les autres d'Israël. Et même si le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, il comprenait déjà la vérité que le peuple de Dieu fait un seul corps. La souffrance des autres était leur souffrance. La joie des autres était leur joie. Donc, obéir à cet ordre de demander du sacrifice et de l'amour. Aussi, il demandait de la persévérance, car la conquête a pris au moins 8 ans pour l'accomplir. Donc, je reviens à mon frère Jean-Yves. Donc, il dit au revoir à Ludovine et Lucas. Et c'est 8 ans. Peut-être le 5e an après, ils disent que mais je me demande comment Lucas va. Il n'avait pas le téléphone, il n'avait pas l'internet, il devait persévérer. Je suis sûr et certain qu'il y avait les jours, ils ont, les nuits qu'ils ont le sentiment d'être trop seuls et avoir les pensées de leur famille. Mais ils ont persévéré. Après la conquête, au chapitre 22 de Josué, verset 3, Josué disait à leur égard, « Vous n'avez pas abandonné vos frères. » Après ces 8 ans, 10 ans, « Vous n'avez pas abandonné vos frères, et ce sur une très longue période, » il dit, « jusqu'à aujourd'hui, vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. » Donc nous voyons, effectivement, ils ont persévéré. Ce n'était pas une affaire d'une journée, un week-end, un mois pour servir, pour aider les autres. C'était une longue période. Donc ça, ce n'est pas seulement persévérance, mais c'est aussi, ça nous montre que cet ordre demande engagement pour le faire. Tout homme qui nous voyons verset 17, je pense. Verset 17 et 18, qu'est-ce qu'il dit? Ils répondent à Josué. Il dit, nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel ton Dieu veuille seulement être avec toi. Il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre, qui n'obéira pas à tout ce que tu lui ordonneras, sera puni de mort. Donc, ils prennent au sérieux cet engagement. Ils étaient prêts de s'engager. Obéir à cet ordre demandait aussi de la foi. Encore, mettez-vous à leur place. Ils viennent de prendre possession de la terre à l'est du Jourdain. Mais ils n'ont pas eu le temps pour bien installer avant de repartir encore, traverser le Jourdain et prendre en possession Canaan. Ils devaient avoir foi que Dieu s'occupera de leur famille pendant leur absence. Ils devaient avoir foi que Dieu serait avec eux pour s'emparer du pays de Canaan. Et comme nous avons dit, bon, j'ai témoigné tout à l'heure, le dimanche passé, ils devaient marcher, pas en avant comme ça, mais ils devaient marcher à reculons dans l'avenir, tout en regardant à la fidélité de Dieu, tenant les mains de Dieu, aller dans à l'avenir avec leur confiance en Dieu. Ils ont déjà vu ce que Dieu a fait pour eux, pour gagner le terrain, l'est du Jourdain. Et quand Dieu était fidèle au passé, il sera fidèle dans le futur aussi, à l'avenir. Donc, tout cela demandait sacrifice, l'amour, persévérance, engagement et de la foi pour servir, pour aider les autres. Bon. La leçon que nous tirons de cet exemple est que nous avons besoin les uns des autres dans la communauté de la foi. Nous ne pouvons pas nous emparer de la vie abondante et promise en Jésus-Christ sans nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Donc, soyez attachés au peuple de Dieu. Vivre seul, chacun pour soi, n'est pas le dessein de Dieu pour nous. Vivre en communauté, voici son plan pour nous. Nous avons besoin les uns les autres. Cet principe est enseigné, renforcé partout dans le Nouveau Testament. J'ai noté juste quatre exemples. Et je vous demande, peut-être chacun peut prendre un passage pour lire. Est-ce que qui peut lire pour nous Hébreux 10, 24 à 25?
Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.
Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui.
Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ.
Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ.
Amen. Nous avons besoin les uns des autres. Donc, sois attaché au peuple de Dieu. Comment pouvons-nous appliquer ce principe? Voici quelques recommandations de pratique à considérer. D'abord, soyez présente. Juste votre assistance est un encouragement aux vos frères et sœurs dans l'Église. Quand tu n'es pas là, votre absence est sentie dans l'Église. Donc, il faut écouter ce que nous avons lu ici en Hébreux chapitre 2. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement, faites cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Dans l'histoire que nous venons de regarder, de ces trois tribus, nous avons vu, ces tribus étaient un encouragement constant aux autres tribus. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà reçu leur héritage. Ils ont déjà reçu le pays. Ils ont déjà vu comment Dieu était fidèle. Donc, juste leur présence était un témoignage de la fidélité de Dieu. Et c'est la même chose pour nous. Quand nous sommes ensemble, même si nous ne disons pas, même si ce n'est pas nous qui chantons, ma présence est un encouragement des autres. Quand je suis bas, l'exemple de la présence de mon frère, ma soeur, remonte ma foi. Je vois assez souvent la tendance des gens, quand ils luttent dans leur foi, ils fuient l'Église. Plutôt que de s'approcher de l'Église. C'est une grave erreur. Nous avons besoin de nos frères et nos sœurs en ces moments. Donc, si vous avez cette part de pensée, et ça ne va pas, bon, mais je ne pense pas. Et je pense que le problème est que nous avons peur de critiques, d'être jugés. Ah, mais tu n'es pas top dans ta foi. Donc de notre côté, de l'autre côté, il ne faut pas juger. Il faut venir à côté pour encourager la foi. Mais nous avons besoin d'être présentes. Il y a beaucoup que je peux dire. Un exemple pour moi, c'est la réunion de prière. Je constate quand c'est trois personnes, en fait, on a le sentiment que c'est un peu lourd. On prie, on est fidèle, mais s'il y a 12 personnes, c'est une atmosphère différente, un esprit différent, parce qu'on est encouragé par la foi des autres. On peut donner plus de beaucoup d'exemples. Deuxième chose, soyez attentifs aux besoins des autres. Encore, en Hébreux chapitre 10, verset 24, veillons les uns sur les autres pour inciter à l'amour et à de belles œuvres. Non, je ne parle pas ici comme il faut être la police. Veillez pas dans ce sens. Mais veillez, quels sont les besoins de mes frères et mes sœurs? Est-ce que je suis observe quand vous êtes là à l'église? Écoute les autres. Prêtez attention des autres autour de vous. Quels sont leurs besoins? Toi, servez-vous les uns les autres. Ça, c'est l'essentiel. Mettez votre foi en action. Nous pouvons lire, si on a, dans le livre, l'épître de Jacques, il dit que si votre frère il a faim ou votre soeur elle a soif, et nous, vous pouvez dire que j'ai beaucoup de foi, mais si vous ne mettez pas votre foi en action, c'est en vain. Galates chapitre 5, verset 13 nous dit « Soyez par amour serviteurs les uns des autres. Quand nous observons un besoin, soyez prêts de porter de l'aide. Mais aussi soyez prêts, pas seulement porter de l'aide, mais être prêts pour recevoir. » Ça demande la grâce aussi. Nous voulons donner un coup de main, il faut être prêt pour porter de l'aide, mais aussi pour recevoir de l'aide des autres. Je suis vraiment encouragé ce matin. Vous savez pourquoi? Bon, ben, maintenant, ce n'est pas moi qui dis, est-ce que j'ai du pain pour le Saint-Saint? Est-ce que j'ai oublié non, mais il y a une sœur qui prend, première fois, depuis des semaines, que Thierry et moi ne jouent pas, mais il y a d'autres qui sont là aussi. Ce matin, c'était d'autres qui sont venus pour installer la salle, d'autres qui étaient allés pour chercher, pour conduire. Et ça, c'est une bénédiction. Quand nous travaillons en équipe, c'est une bénédiction. Il y a d'autres qui sont venus le matin, tôt avant le culte, pour prier ensemble, pour le culte. C'est ce que Dieu attend de nous. Et prier les uns pour les autres. L'un des plus grands services que nous pouvons porter aux autres est de prier. Dieu attend nos prières. Souvent, nous oublions cette chose, la prière, la puissance de la prière. Prier, si quelqu'un a besoin, c'est pourquoi nous avons le SOS prière. C'est pourquoi, donc, prions les uns pour les autres. Dernièrement, servez dans la sagesse et la puissance du Saint-Esprit. Demandez Dieu de vous donner sagesse, comment aider les autres. Parfois, nous avons notre idée. Il faut être flexible. C'est comme ça que je vais aider. Oui, ils vont manger ça parce que je vais leur apporter. Mais c'est Dieu qui nous dirige. Nous devons être à l'écoute de l'Esprit pour servir d'une manière qui peut vraiment être utile. Et si ce n'est pas pour notre bien, c'est pour leur bien et c'est pour la gloire de Dieu. Donc, être sage. Sachez aussi que parfois nous hésitons de servir parce que nous avons peur. Hein, je ne peux pas. Est-ce que je peux jouer le caron? Ben, peut-être que je ne le fais pas. Parce que si je fais l'erreur, hop, non. Dieu nous donne la force, Dieu nous donne la capacité de le faire. Il y a deux semaines, j'ai fait une visite de quelqu'un qui n'est pas dans notre église, mais une visite de quelqu'un à l'hôpital. Je ne savais pas vraiment ce que je devais dire. Donc, mais je suis allé, mais avec la force de Dieu, il m'a parlé, il m'a donné les paroles qui étaient aptes, qui étaient correctes pour cette situation. Quand nous servons, il sera là pour nous remplir de son esprit et de sa puissance. Pour terminer, c'est un peu long, le triangle de transformation dont nous avons déjà parlé. Cet triangle, il y a plusieurs choses, mais c'est la façon que Dieu nous transforme pour que nous puissions expérimenter cette vie qui nous attend en Jésus-Christ. Assimiler la pensée de Jésus, s'entraîner selon les pratiques de Jésus, faire ensemble avec la communauté de Jésus, s'appuyer sur l'esprit de Jésus. Et si nous faisons de cette manière, nous allons être transformés. Et les deux principes que nous avons vus déjà dans ce premier chapitre correspondent au triangle de transformation. Soyez la semaine dernière, soyez attachés à la parole de Dieu. Que nous avons la pensée de Jésus, que ça transforme notre manière de penser, notre manière de voir le monde. Et aussi, soyez attachés au peuple de Dieu. Nous avons besoin de nos frères et sœurs vivre dans la communauté si nous voulons nous emparer de cette vie abondante qui nous attend en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci. Enseigne-nous de ce livre. Aide-nous d'être prêts de servir et être servi par nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Que nous soyons vraiment attachés au peuple de Dieu, parce que c'est par là la provision que tu nous as donnée, ce que tu as déjà décidé, la façon que tu as décidé d'utiliser pour nous transformer et pour nous donner cette vie. Je prie en ton nom, Seigneur. Amen.